ce qu'ils appellent, eux, fermeté et précaution vis-à-vis des criminels dangereux, voilà. Ce qui mériterait une attention particulière afin qu'ils ne réitèrent pas.
C'est exactement ça, une volonté de faire reculer la criminalité, d'épargner de nouvelles victimes, en présentant le délinquant comme un individu nuisible, indésirable. Et là, je pense qu'en arrière-plan, il y a une vision du délinquant presque inhumaine. C'est le monstre, c'est le prédateur, celui qui nous menace. C'est, pour reprendre une expression qui avait été utilisée dans l'affaire Mera à Toulouse et Montauban, le loup solitaire. Donc il y a une animalisation de ce danger qui présente le délinquant comme celui par qui le mal arrive, parce que précisément il est incontrôlable par sa sauvagerie naturelle. Alors, le réflexe que l'on peut avoir, c'est de l'éliminer. Éliminer le mal par le mal, donc appliquer un principe de précaution, de neutralisation sélective de ces criminels-là, qui, parce qu'ils sont essentiellement dangereux, doivent être mis hors de la société, hors d'état de nuire, pour nous en débarrasser. Non, il faut être ferme là-dessus. Les délinquants ne sont pas des animaux, ce sont des êtres humains qui ont commis des actes inacceptables, qu'il faut punir, et je crois, fermement. Mais en même temps, il y a un temps aussi pour la reconstruction qui doit et qui peut intervenir. Et c'est le grand danger des positions de l'Institut, de nous faire croire qu'il y a une peine dissuasive qui, parce qu'elle s'appliquera sur tous les délinquants, nous débarrassera définitivement du mal. Alors que je crois que l'expérience des sociétés, l'expérience de la peine depuis qu'elle existe, montre qu'il y a effectivement ces deux temps qui existent et qui doivent effectivement se conjuguer pour permettre à la société d'intégrer en son sein ceux qui sont un temps tentés par la déviance, mais qui peuvent demain être réintégrés dans son processus de fonctionnement.
Un petit bout de ficelle autour de son cou, un petit bout de chiffon pour ne plus rien sentir du tout. C'est l'enfermement qui fait qu'à cet instant, prisonnier s'évade en passant par un nœud coulant. Un tout petit dérapage suffit pour se retrouver deux pieds dans une cage à mordre un morceau d'oreiller. Pour peu que madame la justice ait écouté monsieur l'État, maintenant on resserre les vis. Je veux parler de célibat. La justice a toujours raison, c'est ce que se disent les procureurs avant d'avoir à jeter quelqu'un en prison. Chaque maison a sa pièce la plus sombre, comme chaque source de lumière apporte son ombre. C'est le pharmacien qui se pique, le petit curé qui s'astique, une pipe pour une promotion, tout ce qu'on cache tout au fond. Mais qu'en est-il de la grandeur d'une nation où droit de l'homme et dignité s'arrêtent aux portes des prisons? Qu'en est-il de ceux qui vivent à l'intérieur, ce qu'on fait passer pour des monstres en disant pas qu'il y en a qui plairent? Mais la justice a toujours raison, c'est ce que se disaient ses parents avant de retrouver leur fils pendu en prison.
Il y a une série d'idées reçues, de préjugés, d'idées dominantes qui se sont répandues dans le monde judiciaire, qui sont fausses. Je vous donne quelques exemples.
Xavier Bébin.
L'idée que la prison, c'est l'école du crime.
Association Institut pour la Justice.
Aujourd'hui, toutes les études criminologiques dont nous disposons et tous les enseignements de l'histoire montrent que la prison est plutôt un frein à la criminalité plutôt qu'un accroissement. On cite souvent les États-Unis comme contre-exemple absolu.
Et de oui, parce qu'ils disent par exemple qu'il y a 8 fois plus de taux d'incarcération aux États-Unis qu'en France. Et en France, je crois que c'est autour de 90 pour 100 000, et aux États-Unis, on fraude les 800.
700, oui. On cite souvent les États-Unis comme contre-exemple. Alors, bien sûr qu'il y a un excès très fort dans le nombre de détenus.